L'art bourgeonne aussi à l'occasion de ce printemps 2025. Et c'est justement l'occasion de voir une nouvelle proposition d'art contemporain avec des références multiples que représente Trespassing. J'espère que je prononce bien, ou Julia va peut-être me préciser ou me corriger quelque peu, cette exposition qui s'ouvre en cette mi-avril jusqu'au premier jour d'été. Bonjour Julia Turati, vous êtes responsable du secteur d'art contemporain. Quelle est l'idée de rassembler tous ces artistes ?
Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, il s'agit d'une exposition collective. On en a régulièrement ici à la Halle. Si on peut dire, la particularité, c'est effectivement de réunir plusieurs artistes. Donc chacun avec sa pratique propre, son écriture en quelque sorte, ses techniques, ses recherches particulières, mais tous les réunir autour d'une thématique un peu transverse, commune. Et pour l'exposition du printemps, on peut très bien dire Trespassing, parce que justement, les titres étaient choisis en anglais pour qu'un temps aussi qui est langue, en quelque sorte universelle, qui peut être prononcée et défaite dans tous les sens, parce que, en quelque sorte, c'est une langue qui nous permet de communiquer au-delà, justement, de langues particulières. Donc, pas de souci pour ça. Une exposition dont la réflexion a mûri l'été dernier, dans un cadre un peu d'une société qui se renferme sur elle-même. Une réflexion, en tout cas, à réunir des artistes qui portent chacun de son point de vue, chacun de leur place, en quelque sorte, qui portent une réflexion sur ce que ça veut dire se déplacer, être forcé à se déplacer, à migrer. Qu'est-ce que ça veut dire aussi l'héritage d'un diaspora familial? Mais qu'est-ce que aussi, et par contre, ça peut dire aussi, qu'est-ce que les voyages peuvent aussi symboliser en termes de un vol imaginaire, de dire d'un ailleurs, etc. Cette thématique peut être prise sur différents prismes, mais d'un point de vue plus formel, j'ai décidé de choisir deux œuvres dont l'aspect premier reproduit ou représente des éléments naturels. Donc on peut avoir des œuvres qui sont vraiment strictement liées à des phénomènes météorologiques, par exemple, comme c'est le cas de Jean-François Boclé, qui reprend les ouragans, les cyclones des Antilles, des Caraïbes, pour faire une métaphore avec certaines luttes d'indépendance, par exemple, de cette partie-là du monde, et puis plus globalement. Ou alors, on peut avoir des images des villes avec des architectures qui sont très typée d'une certaine époque. Je parle du film qu'on propose dans l'auditorium, par exemple, qui est Freedom of Movement, de deux artistes allemands, Nina Fischer et Maren Alsani, qui reprend les trajets à travers Rome, les trajets du marathon de Rome des JO de 1960, mais avec un parallélisme aussi avec l'impérialisme à la fois de la Rome antique, et puis plus d'un des temps plus proches de nous, du fascisme. Donc, traverser cette ville par un coureur noir, migrant aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Quel impact? Comment on peut réagir à tout ça? Donc, il y a vraiment des pistes et des stimuli visuels qui sont les plus différents, mais avec cette idée de pas tant proposer une œuvre, enfin, il y a des œuvres qui sont plus politiques que des autres, certes, des artistes qui le sont aussi, mais l'idée est plutôt de donner à travers ce qu'on donne à voir, donner à penser. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être dans un militantisme, mais juste dans une société justement qui s'atomise, hein, de frontières qui s'érigent, penser à pour réciter donc les titres du film que je viens d'évoquer, cette liberté des mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et je l'espère quand même, malgré tout, on vient visiter une expo aussi parce qu'on a envie d'être surpris, donc j'espère aussi avec des propositions plastiques qui puissent faire du bien.
Vous avez donné une certaine représentativité du mouvement par les artistes que vous avez fédérés pour donner un sens global.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye toujours de faire dans des expositions collectives. On a différentes générations d'artistes, différentes nationalités, avec effectivement des approches qui sont tout autant variées. Donc, dans les plus jeunes générations, on peut citer une artiste comme Emba Benaïsa qui travaille des questions liées au postcolonialisme et aussi à son histoire familiale, mais d'un point de vue qui se veut à la fois celui de la petite histoire et de la grande. Et l'œuvre qu'on présente en particulier, elle reprend un peu les codes du muséum, donc de cette idée peut-être d'avoir une encyclopédie des savoirs et des espèces végétales, etc., pour créer une petite collection de graines, de plantes, d'herbes séchées, mais aussi des coquillages, que différents participants lui ont donné, des espèces qui peuvent être endémiques d'une région, mais qui ont été intégrées dans une autre, et comment tout ça peut constituer une forme de, du coup, des musées non pas autoritaires, mais plutôt un musée presque du cœur, de souvenirs, et comment ces objets, ces graines, ces plantes, etc., peuvent porter une petite histoire qui s'inscrit dans la grande. Et donc, cette proposition, cette sculpture qu'on propose ici, elle fait partie d'un travail plus général de l'artiste qui s'appelle les Muséums des espèces inutiles et qui évidemment a vocation à renverser des paradigmes un peu de, à la fois scientifiques et de construction de certaines collections. Et donc on a vraiment quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'intime, de la délicatesse, du fragile aussi. Et c'est une autre entrée en matière. On a aussi, toute jeune artiste, d'ailleurs les deux, elles sont diplômées à l'école des Beaux-Arts de Lyon. On a une jeune artiste qui est Angèle Dumont aussi, qui elle propose plutôt un film où on suit, dans la vallée de la Maurienne, on suit un chemin dans les Alpes, qui est aussi un chemin qui est emprunté par les migrants qui passent la frontière de l'Italie vers la France, avec tout un contraste qui est extrêmement évident entre la beauté du paysage, un paysage qui est à la fois sublime, majestueux, et ce qu'on devine s'est passé parce qu'on voit jamais des corps, ou alors si on voit des figures humaines, c'est vraiment un arrière-plan. C'est d'ailleurs des gens qui sont là pour des sports d'hiver, donc avec un registre tout autre, ou la police par exemple, qu'on voit à des postes, mais toujours un arrière-plan, jamais frontalement. Et donc on devine cette tension entre une certaine beauté, une certaine image aussi de la montagne et de la marche en montagne qui peut ressourcer, qui permet de se recentrer, avec une marche qui est celle de l'urgence, de migrants aujourd'hui donc on connaît bien la trajectoire, les difficultés. Et la traque aussi, parce que s'ils sont obligés de passer par des chemins de traverse, c'est parce que c'est de plus en plus difficile de déplacer, même dans des cas d'urgence, par les voies principales, on va dire. Après, on a aussi, par exemple, une artiste comme Elodie Fradé qui nous plonge vraiment dans un film qui est très contemplatif. On a vraiment une image, un plan fixe, une forêt très verdoyante, on entend des oiseaux, très beau, et puis petit à petit il y a un élément incongru qui s'approche du premier plan de la caméra, et il y a un bloc noir, un carré noir, un rectangle plutôt noir qui s'approche et qui nous traverse à un moment. Donc il y a quelque chose de l'ordre aussi de quatre murs, entre le spectateur et la scène qui est filmée qui tombe. Et on peut découvrir ensuite que cette artiste est issue de la communauté des gens de voyage et que pour elle, il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'être aux marges, d'être un peu d'une communauté qui est pas toujours tolérée, qui a une imaginerie aussi forte, des préjugés qui tournent. Et donc avoir cet élément incongru qui brise quelque chose, ça, c'est de l'ordre un peu d'un mystère familial, parce qu'elle n'a pas non plus grandi en tant que nomade, mais ses parents, elles sont issues de cette communauté. Donc être vraiment dans quelque chose un questionnement à la peut-être plus intime, quand on fait une histoire familiale qui guide le travail de l'artiste. Mais d'être un peu dans une tension pareille comme ça, de quelque chose qui serait normal, normalisé, et puis un élément qui gêne peut-être. Voilà. Mais après, il y a d'autres œuvres aussi qui sont je disais peut-être tout à l'heure, plus de l'ordre de l'imaginaire, d'un vol aussi peut-être rêvé d'un ailleurs. Et ça, notamment, Il y a une œuvre de Sarah Oudou qui est très, très, très poétique, qui est sur des vitraux qu'elle a fabriqués avec des artisans marocains, où il y a un poème écrit en arabe. Donc, elle a retravaillé la police pour qu'il y ait... que ça devienne presque une forme abstraite, hein, l'alphabet arabe. Et c'est un vers d'un poète libanais qui, on pourrait traduire comme « Toi qui voyages avec les vents, quel prochain rafale tu vois suivre ». Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment plus lyrique, et mais qui nous permet tout autant de réfléchir à peut-être un état des choses, de notre place au monde aussi. Et Shourou Kaïk aussi, qui nous présente des dessins qui mêlent plusieurs éléments d'architecture, des différents pays, etc. Et donc voilà, il y a à la fois des éléments qui sont très réalistes, concrets, et puis d'autres qui sont un peu plus imaginés. Marie-Claire Messouna Benalem aussi, qui présente plus une cartographie mentale, peut-être désirée d'une région du monde qu'elle n'a pas connue, et suit aussi elle-même des diasporas plutôt africaines. Donc voilà, donc il y a vraiment une variété à la fois des formes, des formats, d'entrée en matière, mais que je l'espère permettra peut-être à la fois de voir des choses qui nous touchent, qui touchent aux cordes sensibles, mais qui puissent donner à penser aussi.
Alors ça a demandé un travail d'investigation, on imagine, de votre part, pour dénicher tous ces artistes et composer cette mosaïque des artistes régionaux, extra-régionaux.
Oui, 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 tout à fait. Il y a quelques artistes qui sont... Bah, d'ailleurs, Awena Kozane, qui est présente aussi avec une sculpture à partir Refer, qui est vraiment au centre, qui accueille le public au centre de la première soirée. Elle habite à Romans-sur-Isère, donc on est vraiment dans les voisinages artistiques. Et puis, il y a d'autres artistes qui sont même internationaux, donc des plus loin. Donc, effectivement, on passe, on trapasse, ouais. On dépasse. Ouais. Et c'est pas grave. Ouais, ouais. Donc, effectivement, même dans les choix des artistes, on est à différentes échelles, des proximités ou pas.
Pour ce qui concerne les temps forts et puis les conditions de visite et la possibilité d'être aussi guidé, Jonathan Ferrara, médiateur de la Halle, qui nous pointe certains temps forts autour de l'exposition et l'exposition proprement dite. Bonjour Jonathan.
Bonjour. Et donc l'exposition Trespassing se visite du 12 avril au 21 juin, aux horaires d'ouverture de la Halle, les mardis et vendredis de 16h à 19h, et les mercredis et samedis de 9h à midi et de 14h à 18h. L'installation de Marjolaine Turpin s'offre quant à elle au regard du public à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans notre showcase sur la place de la Halle. Tout au long de l'exposition, nous vous invitons à nous rejoindre pour plusieurs temps forts. Tout d'abord, le mardi 13 mai, à 18h30, pour une visite spéciale en partenariat avec le Diapason de Saint-Marcellin. L'idée, venir découvrir l'exposition Trespassing et repartir avec une petite surprise, une contre-marque pour découvrir le spectacle Yaï de la compagnie Stylistique, le vendredi 16 mai à 20h, au Diapason. Ensuite, on vous donnera rendez-vous le samedi 24 mai dans le cadre de Mai à vélo et de la Fête des Voies Vertes avec Vélo Expo Dodo, un parcours de visite atypique conçu avec la complicité de l'association Roule à vélo et du couvent des Carmes. Au programme, relié à vélo, deux expositions, celle du couvent et celle de la Halle, en sillonnant une partie du territoire par des chemins de traverse. On vous attendra en forme pour un départ à 9h30 depuis la fontaine du Champ de Mars à Saint-Marcellin, pour un retour prévu aux alentours de 16h30. Une aventure à réserver plutôt aux adultes et aux ados courageux. Et puis enfin, rejoignez-nous à la Halle le samedi 14 juin à partir de 14h30 pour un dernier temps fort autour de l'exposition. Nous vous proposerons de la découvrir ou de la redécouvrir à travers une visite atelier grand format à faire en famille ou entre amis, plutôt à partir de 3 ans cette fois. Un petit mot aussi pour les enseignants et enseignantes qui nous écoutent, mais aussi pour les structures du champ social et les accueils de loisirs. Nous vous proposons tout au long des expositions de venir découvrir le travail des artistes grâce à différents formats de visites et d'ateliers adaptés aux âges et situations des participants et participantes. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et pour réserver votre venue. Vous pouvez retrouver toutes nos infos et actualités sur notre site web www.lahalle-pontorvoyant.com. Et des compléments en nous contactant au 04 76 36 05 26 ou à l'adresse public avec un S lahal-pontorvoyant.org. Et puis un dernier mot pour vous dire que tous nos événements, visites et ateliers sont gratuits et ouverts à toutes et tous, donc n'hésitez pas à en profiter sans modération.
Merci Jonathan. Alors dans la continuité de cette exposition, signalons aussi un programme qui est le fruit d'ailleurs actuellement à voir au Showcase avec des institutions qui donnent matière à création.
Oui, tout à fait. En fait, parallèlement à cette exposition, un collectif qui est dans nos salles. Et d'ailleurs, je tiens aussi à remercier deux institutions prêteurs parce qu'il y a des œuvres qui font partie de la collection de l'Institut d'Art Contemporain des Villes Urbaines et de la collection de la ville de Vénissieux, donc qui sont des partenaires quand même assez récurrents du Centre d'Art et qui nous permettent de montrer aussi des œuvres, des fois d'artistes établis, pour ne pas dire historiques parfois. Et donc, on tient à les remercier aussi. Et puis, on a dans cet espace qui est vitré sur la place de la Halle, notre showcase, un espace qui est toujours visible, en quelque sorte. Mmh. On accueille une artiste, Marjolaine Turpin, une artiste qui a effectué une résidence Alpage, qui ont mis en place depuis maintenant 3 ans avec l'Invers des Pentes, association grenobloise qui organise des résidences, un refuge en haute montagne, et puis Villa Glovette, qui est un partenaire basé à Villard-des-Lans, qui accueille plutôt dans la station de ski des Glovettes, hors saison, des artistes à travailler effectivement sur place. Donc, ces trois partenaires, donc avec la Halle évidemment, on s'est réunis depuis quelques temps pour proposer à un artiste de travailler dans le milieu des alpages. Donc, un lien à la fois avec un milieu qui est celui du pastoralisme, forcément, donc avec cette activité, mais aussi ce qui peut être les paysages qui est façonné aussi par cette activité. Donc il y a vraiment une invitation qui est tentée par l'ambiance, par le milieu naturel dans lequel les artistes sont invités, mais après c'est absolument carte blanche. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment chaque année les artistes renouent avec, enfin, en tout cas, trouvent des voies assez propres pour travailler à partir et en immersion avec cet environnement. Et Marjolaine Turpin va nous parler de ses projets spécifiques pour Alpage 2024-2025.
Bonjour Marjolaine.
Bonjour.
Et vous qui avez fait justement une résidence de création avec l'Envers des Pentes et puis peut-être aussi l'aspect résidentiel à Villard-de-Lans, Villa Glovette, qui ont donné matière à création, ce que vous exposez dans la vitrine. Qu'est-ce qui vous a inspiré précisément ?
Alors, moi déjà, le domaine des alpages et le métier de berger, je ne le connaissais pas du tout. Donc ça a été une vraie découverte, un vrai temps un peu d'immersion, qui a donné lieu à différents éléments d'inspiration, notamment autour des gestes de soins, à savoir que les bergers, tous les soirs, en rentrant le troupeau, ils inspectent les bêtes, et puis il y a différents gestes de soins à appliquer selon les affections qu'elles peuvent avoir, notamment cureter, déposer des onguents, les marquer aussi pour pouvoir suivre leurs évolutions, l'évolution des maladies. Et donc ça, c'est quelque chose qui a pas mal marqué mes réflexions, parce qu'en fait, c'est des gestes qui sont très proches de la sculpture, et donc que j'ai essayé de rejouer un petit peu à l'étage, au showcase. Et puis après, il y avait un aspect sonore aussi des choses. Après, il a fallu aussi faire le tri dans tout ce qui est très inspirant, parce que c'est assez fascinant de découvrir cet endroit-là, surtout quand on le connaît pas. L'aspect sonore aussi, très intéressant, quand on se déplace dans l'alpage, toujours être sur le qui-vive, des pierres qui peuvent rouler, tomber, notamment dans les écrins où c'est très très escarpé. Il y a aussi la surveillance que les bergers peuvent opérer au sein de leur alpage, de surveillance autour des végétaux. Justement, ils sont aussi là, comme c'est eux qui, les habitants de ce domaine-là, ils sont aussi là pour regarder comment la végétation évolue, l'empreinte des troupeaux aussi sur cette végétation, puisque notamment dans les Alpes, les troupeaux viennent fertiliser la terre, qui est a priori pas très fertile à ces altitudes. Et donc, ça génère un phénomène qui s'appelle refermer un paysage, c'est-à-dire que ça va fertiliser la terre, des espèces qui normalement ne devraient pas pousser, la peuvent pousser. Et donc, du coup, en fait, les bergers essayent de trouver un équilibre entre l'habitation des bêtes, le fait de fertiliser, et leur faire manger autant ces végétaux pour éviter que le milieu se referme. Et donc ça, c'est des choses qui inspirent beaucoup ma pratique, puisque moi, je travaille beaucoup avec le végétal. Et donc, du coup, ça vient aussi infuser dans ce que je propose là-bas.
Mmh. effectivement, la résidence a eu lieu en deux temps, avec deux partenaires. Un temps dans les écrans à l'été 2024, et puis à l'automne 2024, d'Alvercore. Et il y a eu une épidémie qui a entre-temps. Et donc, il y a eu un rendez-vous manqué, en quelque sorte, avec les troupeaux d'Alvercore. Mais à partir de cette absence et aussi de cette détresse, ce travail autour du soin et de cette relation humain-animal est liée aussi un peu à ces contextes spécifiques que tu as pu...
En fait, il y a eu une épidémie de fièvre catarrhale, qui est une maladie qui existe depuis des années en France, mais c'est la première année où elle a été aussi virulente. Et en fait, c'est quelque chose qui a marqué mes deux temps de résidence, évidemment, comme un espèce de chapeau un peu invisible, puisque, comme le disait Julia, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer les troupeaux que j'aurais dû rencontrer à Villa Glovette. Bon, j'ai quand même rencontré un berger avec un autre troupeau. Et donc, du coup, il y a cette épidémie-là qui a fait beaucoup de dégâts dans les troupeaux, qui cause qu'on appelle maladie de la langue bleue, qui cause aussi des avortements chez les brebis et des choses comme ça. Donc, c'était assez tragique. Et cette maladie-là, elle est signifiée dans l'exposition par des petites ailes de moucherons en verre, puisque cette maladie se transmet uniquement par les piqûres de moucherons. Elle n'est pas contagieuse entre les bêtes, mais ces moucherons qui remontent de plus en plus au nord à cause du réchauffement climatique sont de plus en plus présents. C'est aussi cette nuée-là qui remonte, qui crée ces épidémies auxquelles on n'est pas habitué sur nos territoires.
C'est une résidence, effectivement, qui s'est vaut tout terrain. Vraiment, les artistes baignent dans un environnement particulier. Donc, l'idée, c'est d'avoir une période qui peut paraître courte, mais qui est en réalité vraiment intense et riche sur place. Donc, tous les travaux après des productions s'effectuent à l'atelier, pas vraiment sur ces lieux-là. C'est vraiment plus des temps, des recherches, des découvertes, d'expérimentation, mais voilà, vraiment cueillir plein d'expériences aussi, et puis pouvoir les retravailler un peu ensuite. C'est moins en résidence des productions, plus vraiment on est dans la création et dans la recherche. Un lien avec ces sites bien spécifiques. Et pour ce qui est des invitations, justement, on s'est réunis entre partenaires et avec l'artiste invité l'année précédente. Et chacune, cette année en plus, on était vraiment que des filles, propose des artistes qui peuvent avoir des affinités, soit par rapport à leur recherche plastique, soit par rapport à certaines attitudes, etc. Mais on essaie vraiment d'être dans des formes vraiment très différentes. Et donc, on a un jury, mais qui est un peu interne. Et avec tous ces dossiers, ces propositions, on en choisit un ou une artiste pour l'année suivante. Mais les projets n'est pas écrit par avance, donc c'est au moment où on les contacte. Et puis même, au vu de cette particularité de terrain, les projets émergent au fil des résidences. Et il y a une temporalité aussi qui est importante, parce qu'effectivement, on parle d'un premier, une première période l'été, puis l'automne, et puis la sortie des résidences, l'exposition ici à la halle, dans le showcase, est plutôt l'année suivante, à la fin de l'hiver, au début du printemps.
Alors cette exposition, il y a un côté assez évolutif, hein, d'après ce que vous avez réfléchi, pour jusqu'au 21 juin lui donner une dimension en perpétuelle évolution, Marjolaine.
Oui, tout à fait. En fait, les sculptures fonctionnent un petit peu comme des ollas, ces réservoirs d'eau qu'on enterre pour irriguer le sol. Et en fait, elles sont elles-mêmes remplies d'eau. Et sur la surface, l'idée, c'est qu'on voit évoluer des mousses qui puissent se former, des moisissures, du salpêtre. Et sa surface va évoluer au fil de l'exposition.
Donc la lumière, l'humidité, tout ça, ça a été bien réfléchi.
Oui, c'est un peu utiliser le showcase comme une serre expérimentale.
Je suis assez contente, en tout cas, quand Marjolaine m'a fait part de cette direction, de cette proposition, parce que c'est un lieu qui est souvent utilisé comme une vitrine, où on montre, on propose, et là, on est plutôt dans un terrarium, comme si c'était une petite lentille d'observation, et donc, effectivement, Marjolaine créer un petit biotope qui va évoluer tout au long de 3 mois d'ouverture. Et puis, tous les passants, tous les visiteurs, ce sera plutôt à eux d'observer et voir les modifications, les changements au cours de la saison aussi, parce que ça se terminera l'été. Donc, je trouve ça vraiment très excitant et très intéressant par rapport à cet espace-là aussi.
Découvrir, hein, conjointement avec l'exposition juste en dessous Trespassing, dans le showcase à toute heure sur le parking du lieu d'art.